chers auditeurs et auditrices de l'autre radio, merci d'être avec nous donc sur nos ondes 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval, pour une émission un peu spéciale, puisque c'est un peu le prologue de notre émission du Chaînon manquant que nous animons chaque année. Cette année, on sera présent pour l'inauguration du festival le 13 septembre de 19h à 21h au Square de Boston, en public et en direct. Mais aujourd'hui, pour un petit peu faire la lumière sur cet événement, je reçois l'équipe du Chaînon à Laval, donc Kevin qui est co-directeur. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Sophie qui s'occupe de la coordination des bénévoles.
Bonjour.
Et Marie qui s'occupe des tournées. C'est ça ?
C'est ça.
Voilà, qui ont lieu après le festival. Donc, le festival du Chaînon manquant cette année, c'est 71 créations, je crois. C'est ça ?
Alors, il y a 71 spectacles, tout à fait.
Voilà.
Avec 116 représentations.
Voilà. Du 12 au 17 septembre à Laval et à Changé.
Exactement.
Avec un prologue les 8 et 9 septembre. C'est la 32e édition de ce festival. Festival qu'on dit de programmateurs. Et ça fait 10 ans qu'il a lieu à Laval, c'est ça ?
Un peu plus, ça fait, c'est la 12e année, 11 ans, 11-12 voilà. ans.
Avant, il était à Tours, à Figeac, à Cahors. Donc là, on peut peut-être faire la lumière, c'est quoi le Chaînon ? Pourquoi ce nom ? Qu'est-ce que c'est comme outil ? Est-ce que c'est un outil de repérage, de programmation, de diffusion ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce festival ?
Alors, le Chaînon, c'est d'abord un réseau. C'est un réseau de 360 7 salles de spectacle dans toute la France qui s'associent pour essayer de mieux repérer et de mieux programmer. Et notamment, ils s'associent aussi pour essayer d'aider le mieux qu'ils peuvent en fait, des projets qu'ils ont repérés sur le territoire et qui n'ont pas les moyens de dépasser les frontières de leur département, de leur région. Donc c'est d'abord un objet, un outil effectivement collaboratif qui va permettre à des dizaines et des dizaines, des centaines même de projets de circuler en France entière et qui va permettre surtout à environ 400 000 spectateurs à découvrir des projets émergents. De tout type, c'est-à-dire du théâtre, de la danse, de l'humour, de la musique, du jeune public, voilà. Et la meilleure manière, en fait, de se montrer des spectacles, c'est de créer un festival, c'est d'organiser un festival. Donc, durant 6 jours, on va présenter 71 spectacles pour que nos adhérents, ces fameuses 367 salles de spectacle, viennent voir les spectacles. Mais un spectacle juste avec des pros, ben c'est triste. Donc on l'ouvre au public, on en profite pour ouvrir complètement les portes au public lavallois et mayennais.
400 000 spectateurs, c'est sur le festival du Chaînon manquant ?
Non, sinon on dépasserait les vieilles charrues. Non, c'est au total.
On doublera la population de la Mayenne.
En fait, les 71 spectacles, enfin, la présentation des 71 spectacles génère aux alentours de 1000, entre 1100, 1200, ça peut monter à 1300 représentations sur la saison suivante. Et quand on multiplie ces 1200 représentations par 300 personnes qui est en public, enfin voilà, en moyenne, on arrive à peu près à ce chiffre-là.
Donc ça, c'est la partie après le festival. Mais en amont du festival, du coup, il y a un repérage, c'est ça, des artistes émergents, si
Exactement.
Je comprends bien. Comment ça se passe ? Qui participe à ce repérage ? Est-ce que c'est les mêmes salles qui après rediffusent ? Les mêmes scènes ? Est-ce que, comment on arrive à être repéré par le Chaînon et être programmé par le Chaînon ?
Alors, il y a deux manières. C'est effectivement d'abord les salles qui vont repérer, c'est-à-dire les 367. Alors, bien évidemment, pas forcément tous. Il y a des gens qui sont plus mobilisés que d'autres. Mais sur c'est les salles adhérentes qui vont d'abord faire une sélection d'environ 120, 130 projets et qu'ils vont montrer sur leur territoire. Ça s'appelle les régions en scène. C'est des petits Chaînons qui ont lieu de début janvier jusqu'à fin mars. Et moi, je vais faire en fait ces 11 festivals, il y en a 11 au total, qui ont des tailles voilà, différentes. Il y a certains qui présentent 5-6 projets, d'autres qui vont en proposer une vingtaine de projets. Et moi, je vais faire le tour de ces 11 festivals et je vais en tirer avec eux une sélection. C'est-à-dire que cette année, par exemple, c'est 30 projets issus des régions en scène qui vont être proposés sur les 71 spectacles. Ensuite, on va, comme on est des généralistes, on va aller se rapprocher, on va se rapprocher de certains spécialistes, comme on l'a fait à une époque avec l'Attitude Marionnette, ou comme on le fait cette année avec l'IGM France, les spécialisés dans le spectacle musical pour le jeune public, ou comme on le fait avec Fée des Chansons, qui a un réseau spécialisé dans la chanson. Et ben, on va aller voir ces spécialistes et on va leur demander, conseillez-nous des spectacles en fait, qui pourraient vraiment intégrer le réseau des généralistes. Et puis...
Vous vous orientez sur une thématique spécialisée chaque année, c'est ça?
Oui, en fait, on fait des partenariats qui durent 3, 4 ans, 5 ans, voilà, sans forme rigide. On a travaillé longtemps aussi avec la FMDT, la Fédération des musiques et danses traditionnelles. Voilà, on travaillait aussi cette année avec l'action culturelle de la SACEM destinée au jeune public.
D'accord.
Voilà, on s'amuse un peu à aller auprès de ces réseaux spécialistes pour alimenter notre réseau généraliste. Et troisième repérage possible, c'est mon repérage que je peux faire à l'année, que j'officie essentiellement en fait dans les grands festivals, dans les grands événements culturels. Donc je vais à Avignon, à Circa pour le cirque, là je reviens d'Aurillac par exemple pour les arts de rue, et puis aussi par une présence à Paris qui me permet d'aller voir pas mal. Moi je vois aux alentours entre 500 et 600 spectacles, mais ce repérage il repose aussi sur le réseau, sur le bouche à oreille, sur les témoignages des uns et des autres. À un moment donné, quand 1, 2, 7, 8, 10 adhérents me parlent d'un même spectacle, bah là, il y a un peu alerte rouge et généralement, ce spectacle, il est formidable.
J'aimerais bien faire ton métier. 500 spectacles par an, ça fait plus d'un par jour, c'est quand même pas mal.
Assez costaud.
Tu dois beaucoup te déplacer et ça doit être très, très intéressant. Mais du coup, si je comprends bien, en fait, le chaînon, donc c'est un réseau, c'est ça? Et c'est un réseau qui permet de mutualiser des outils de travail et des connaissances et des contacts.
Exactement.
Donc la plus-value...
Et de mutualiser aussi des moyens de transport, de l'énergie, qui permet de regrouper les dates aussi, car il y a un fort impact écologique finalement dans notre travail. Marie pourra mieux en parler sur l'agence Pont Détourné, parce que les 1176 représentations cette année.
Oui, à peu près 1178.
Ça c'est la partie après Chaînon, c'est-à-dire que sur les 70 créations à peu près qui sont présentées pendant le festival, ça génère plus de 1000 représentations dans toute la France.
Exactement.
Dans les 300 salles qui sont adhérentes au réseau, en fait.
C'est ça.
Voilà. Et on peut rajouter aussi, parce que le Chaînon n'est pas fréquenté que par des adhérents du Chaînon, il y a aussi des salles qui ne sont pas adhérentes au Chaînon, qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans le système, et qui vont, après leur repérage au Chaînon, acheter des spectacles. Donc, plus spécifiquement, je pense qu'on est aux alentours de 1500 représentations générées par le Chaînon chaque année.
Ouais, c'est énorme.
Mais 1178 que nous coordonnons, nous, et particulièrement Marie.
Du coup, on voit tout de suite la plus-value, en fait, pour... à la fois les programmateurs, les salles, et puis pour les artistes, c'est-à-dire c'est un tremplin.
C'est un gain d'énergie, de temps, etc. Alors après, on ne dit pas que les 71 spectacles vont avoir des dates cette année. Sur les 70 de l'année dernière, je dirais qu'il y en a 10-12 qui sont repartis sans rien ou pas grand-chose. Une sorte de ventre mou d'une vingtaine de projets qui ont entre 2 dates et 5-6 dates. Et puis, je dirais 30 projets qui ont entre... 7, 8 et ça peut monter à 100 dates.
Ça peut monter à 120, 150 représentations, notamment pour des spectacles jeunes publics qui peuvent être présentés plusieurs fois dans la journée.
D'accord, du coup, la possibilité en fait pour les artistes qui arrivent ici de trouver 150 dates l'année suivante, c'est énorme.
C'est énorme. Alors là, on est vraiment sur deux spectacles qui ont le plus de dates.
Alors, spectacle jeune public, on sait que ça tourne beaucoup à Noël.
Ouais, et puis en fait, il y en a plusieurs dans la journée. En fait.
Voilà, c'est
aussi
possible.
En termes de comptable, en termes de représentation. Etc. Mais
et puis, il y a les publics captifs, ouais. Du coup, on peut programmer. Enfin, ouais. C'est quand même un autre réseau de diffusion.
Exactement.
Aussi.
Ouais. Après, sur les spectacles tout public, on va être déjà un spectacle 4. 30 représentations, là même on est allé jusqu'à 45.
59, c'est... non, avec Alexis Le Rossignol, un humoriste, 59, non?
Je n'ai pas vérifié le chiffre exact d'Alexis Le Rossignol, mais en effet, il est dans celui qui a le plus de dates, ce qui est déjà énorme.
Et là, on est
pour
vraiment
un spectacle
sur l'unitaire,
public.
Quoi.
Ouais. Ah, donc c'est un super travail qui permet de valoriser les artistes. Et là, pour monter, en fait, donc là, il y a une équipe à Laval, et vous collaborez avec tout le reste... des régions en scène. Combien vous êtes? Quelles sont les missions? Est-ce que vous avez des partenaires locaux ici avec lesquels vous entretenez des relations privilégiées?
Oui, bah oui, bien sûr. Non, mais clairement, ce festival, il ne pourrait pas se faire sans la collaboration de plein, plein de gens et de structures. Donc d'abord, effectivement, vous l'avez évoqué, il y a toutes les fédérations qui travaillent en région pour le repérage. Ensuite, il y a effectivement une équipe en place de permanents. Donc on est 4 permanents, donc c'est une toute petite équipe, mais on est 4 permanents avec 2 personnes en co-direction, Sophie qui est à l'année en assistant admin et en charge des bénévolats, une personne aussi à la communication, et puis bien Marie bien sûr, donc ça fait 5 permanents ou équivalents permanents au total. Et puis après, au fur et à mesure que le festival approche, il y a toute une équipe qui intervient. On engage 3 personnes pendant 6 mois en fait pour organiser le festival. On a un directeur technique qui est présent un peu toute l'année mais qui bosse sur plein d'autres événements aussi. Donc voilà, donc il y a une équipe au total. À l'approche du festival, on se retrouve une bonne quinzaine, voire un peu plus avec tous les intermittents techniciens qui, là, on est plutôt dans la quarantaine de personnes. Et puis après, on s'appuie effectivement sur les forces vives du territoire. On est en partenariat, alors on a un soutien sans faille et extrêmement fort de la ville de Laval et particulièrement de la direction des affaires culturelles. Oui. Nous accueille ici à la SCOMAM, qui nous met à disposition un certain nombre de salles. On a des partenariats forts avec les grands acteurs du territoire, notamment le Théâtre de Laval, qui accueille une douzaine de spectacles durant la semaine, avec le 6x4. Bon, cette année est une année particulière parce qu'il est en travaux et on ne pourra pas l'exploiter. Mais le 6x4 est un partenaire important. Et puis, on a aussi les partenaires de l'agglomération, notamment sur le prologue du Chaînon. Après, tout ça, en termes de financement, on est beaucoup aidé par l'État, la ville de Laval, je l'ai évoqué, par le ministère de la Culture, c'est les 3 gros financeurs. Alors, ensuite, il y a le département qui intervient et notamment aussi un partenariat un peu spécial avec Mayen Culture sur le repérage et la mise en avant aussi de projets mayonnais ou la mise en contact d'artistes mayonnais avec les adhérents du Chaînon. On a un partenariat avec le conservatoire aussi et la présentation de créations chaque année. Et puis surtout, après, Sophie pourra en parler, on a surtout la mobilisation de plus de 200 bénévoles pour nous aider à monter le festival.
On va en reparler après parce que c'est vrai c'est énorme. C'est la partie immergée de l'iceberg.
Ouais, il y a un vrai truc, une vraie histoire de solidarité. Alors, solidarité de métier, mais aussi de solidarité humaine. Parce qu'on fait tout ça pour permettre à des super spectacles d'être vus par le plus grand
La plus grande audience possible.
Et surtout de le faire sans que ces artistes risquent leur peau. Je dis ça parce qu'il y a de moins en moins en France des événements ou des endroits de repérage. Maintenant, ça se concentre sur Paris ou à Avignon. Et faire un mois d'Avignon pour un artiste, c'est 40 000 euros à emprunter pour exister, quoi. Mmh. Et pour être vu et pour se battre là-bas sans avoir la garantie d'être vu. Ici,
c'est une alternative, du coup.
Ici ils sont embauchés. Clairement, ça leur coûte quasiment rien de venir au Chaînon. Et ils ont la garantie d'être vus par au moins, au minimum, 50-60 professionnels.
D'accord. Alors encore deux, trois petites questions autour de généralement du festival. Du coup, vous avez des partenaires locaux et il y a plusieurs lieux en fait de spectacles sur l'agglo de Laval principalement. Pour le festival, c'est Laval échangé, mais ce prologue qui a lieu les 8 et 9 septembre, il se déroule sur l'ensemble du département, si j'ai bien compris. Et il s'agit de rediffuser, on dit rediffuser à la radio, mais de reprogrammer des spectacles qui étaient dans le festival de l'an dernier, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est la 6e édition, 6 ou 7e édition. Je ne suis pas très
le prologue.
Je me perds dans le nombre de... Mais,
c'est 7e édition, oui.
7e édition du prologue. L'idée à l'origine, mais qui est toujours actuelle, c'était de s'échauffer en fait, avant le Chaînon et de permettre... parce qu'on s'est rendu compte que le Chaînon était très très lavallois, qu'on était un peu trop sur ce territoire et on a eu envie d'aller montrer un peu ce qu'on repérait, ce qu'on faisait découvrir en fait au Lavallois, et puis de montrer qu'on n'était pas juste un événement comme ça greffé à un seul territoire, mais qu'on était peut-être aussi en capacité de pouvoir faire circuler les projets qu'on repérait. Et puis c'est aussi des histoires de rencontres avec Bonchamp notamment, avec Saint-Berthevin qui ont eu l'envie à ce moment-là, sans que le reflet existe à cette époque, de dire
d'accueillir en fait.
Voilà, on a envie d'accueillir des spectacles, aidez-nous à le faire. Et c'est comme ça que la chose s'est montée. Ensuite, le département et Mayenne Culture se sont dit, c'est vachement bien ce que vous faites, on peut vous accompagner, mais à ce moment-là il faudrait aller un petit peu plus loin que l'agglomération lavalloise. Et c'est dans ce contexte qu'on est allé dans le bocage mayennais l'année dernière à Ernée, ou cette année à Cran. Pour nous, on le voit comme une sorte moi je le vois comme une espèce d'échauffement avant le chaînon, une espèce de séance de rattrapage. Ça raconte une histoire aussi, c'est-à-dire que ces artistes qu'on accueille cette année, qu'on accueille chaque année, vont commencer leur tournée du chaînon, donc c'est une occasion de les revoir avant qu'ils partent sur l'air, vingtaine, trentaine ou quarantaine ou centaine de représentations après derrière sur le réseau. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que notamment l'année dernière, avec le spectacle Cheval dans le bocage mayennais, on crée des histoires qu'on a, qui nous échappaient complètement.
Et du coup, vous choisissez, alors je ne sais pas si c'est vous Kevin ou si c'est vous Marie qui choisissez quel spectacle pour quel endroit, mais j'imagine que vous êtes attentif à proposer quelque chose qui va être reçu par le public. Qui va plaire,
ouais.
Ou qui va faire bouger, enfin quel est votre objectif, qui est-ce qui choisit les spectacles et comment qui se déplace sur le département pendant le prologue?
Alors les spectacles, ils sont surtout choisis en fait par les programmatrices et programmateurs du territoire qui ont vu des spectacles en fait au chaînon l'édition précédente et qui vont pouvoir aussi jauger.
Équilibrer leur programmation
aussi par rapport à leur programmation, puisque cette date elle est intégrée à leur programmation, et puis si parfois il y a des soucis de disponibilité d'équipe, ce qui peut arriver, généralement la programmatrice, le programmateur en parle avec Kevin pour voir quelles autres options seraient possibles parmi les spectacles qui ont très bien fonctionné en fait sur le réseau après l'édition de l'année dernière.
Donc c'est des allers-retours.
Oui, c'est des échanges, mais c'est vraiment eux qui ont le final cut et qui choisissent en fonction de leur public et en fonction de leur contexte. C'est vraiment eux qui ont... Après, on est plus là en termes de conseils et d'orientation.
Et là, vous avez beaucoup de lieux du coup de spectacles. Il y a l'Atelier des Arts Vivants à Changer. Il y a des spectacles à Ascomam, ici, où on est aussi où l'autre radio, au Théâtre Jean Massé. Sur le square de Boston où il y aura un grand chapiteau,
il y aura et deux
un
chapiteaux.
Petit chapiteau, dans des établissements scolaires, donc au lycée à l'Immaculée Conception, au lycée Douanier-Rousseau, puisque vous travaillez aussi avec les scolaires, au lycée Ambroise-Paré, en extérieur au jardin de la Périne, à l'esplanade du Château-Neuf, vous investissez un peu tous les lieux, à la salle polyvalente aussi, au reflet à Saint-Berthevin, et aussi au 40, qui est un nouveau lieu à Laval. Est-ce que... Comment ce nouveau lieu, là, pour vous, c'est une nouvelle opportunité ou ça remplace peut-être quelque chose qui existait avant? Est-ce que vous avez participé à la réflexion sur la mise en place de ce tiers-lieu?
Alors non, on n'a pas du tout participé à la mise en place de ce lieu, qui est vraiment une initiative de la mairie et qui a été brillamment mis en place par la DAC et d'autres partenaires, par le conservatoire notamment. J'ai hâte, c'est pour moi c'est vraiment un lieu qui s'intègre totalement, qui ne remplace pas, au contraire, qui nous permet d'autres choses, notamment d'y tester des formes de théâtre musical qu'on n'avait pas forcément... possibilité avant, enfin, parce que la taille des salles est assez relativement réduite. Là, on parle de Jean Massé, c'est 70 places. Les salles dans les lycées, on est aux alentours de 100, entre 100 et 135 places. Même l'avant-scène, 150 places. Là, on a un large plateau. On est sur une jauge à 273 places. On n'est pas à la course à la place parce que la billetterie du chaînon, c'est entre gratuit et 10 euros pour 3 artistes au total. Donc, on n'est vraiment pas du tout. Mais voilà, on a besoin de places quoi. quand même pour accueillir les scolaires, pour accueillir les publics, pour accueillir les pros. Donc là, ce lieu, puis bon, ce lieu, il est juste inspirant. Donc,
il est très beau. Oui. Ouais, est-ce que vous utilisez juste la salle de l'auditorium?
Ouais, à ce stade, oui.
Voilà. Parce qu'il y a aussi tous les espaces de circulation.
Mais on va chaque chose en son temps.
Il va être investi progressivement.
Déjà,
on teste
6 jours. Hein, on y est pendant 6 jours à l'auditorium. Donc, on y va gentiment. mais forcément, il y a l'envie peut-être d'aller de créer peut-être un festival dans le festival. Enfin, en tout cas, il y a la possibilité, il y a le potentiel. Ouais. Maintenant, il faut vraiment que le public, les professionnels se l'approprient et montent la côte.
Ça prend un peu de temps, tout ça. Merci beaucoup, Kevin. On va faire une petite pause musicale et reparler de la programmation de cette année. Juste après, on va écouter donc un artiste qui est programmé jeudi 14 au Village sur le Square de Boston à 18h. C'est François Poitou et les Pumpkins.
Dans le sable, mets ton tort dans les vaguelettes. D'être blanche au Scrabble, tout me va. Pression, râle pas, crête. Le rouge, ça fait des farces. L'eau vient titiller les serviettes. La lune fait sa force, fait marrer l'océan. Les gosses kiffent plus que les coquillettes. En décubitus placé, sans scrupule d'habitude, je déguste assez la ville, ça fait mal comme un cubitus cassé. Frisbee dans les dents de la mer, biscuit trempé dans la crème solaire. Cerf volant, baptême de l'air, cerve-la sous les molaires, dans l'eau de mer. Celle de Guérande sur ma peau caramel, loin de la saison des guirlandes de la cannelle. À l'écart des rouleurs de mécanique de camel, des camés du pique-nique, je suis toute seule, amen. Le pied dans le sable et la houle m'inonde, le bonheur est dans le Gouémont. M'en fout de savoir où est passé tout le monde, loin de la foule et ses démons. À deux doigts de péder un câble, je mets les deux pieds dans le sable. À deux doigts de péder un câble, je mets les deux pieds dans le sable. We'll be right back.
Voilà, c'était donc François Poitou et Pumpkin, Pumpkin, qui est la chanteuse qui s'associe à ce contrebassiste pour un jazz assez profond. Et le titre, c'était « Deux pieds dans le sable ». Ils joueront donc jeudi 14 septembre à 18h au Village sur le Square de Boston. On est toujours avec Sophie, Marie et Kevin du Chaînon, du réseau Chaînon, puisque c'est comme ça que s'appelle l'association, à parler du festival du Chaînon manquant qui aura lieu du 12 au 17 septembre à Laval Échangé, donc sur un ensemble de salles très différentes. On vient d'évoquer juste avant la chanson là, tous les lieux de programmation de ces spectacles, le 40, le théâtre,
l'avant-scène.
Voilà, l'avant-scène qu'on n'avait pas
petite
dit.
Petite interrogation, qu'est-ce qu'il y a?
La salle polyvalente, le jardin de la Périne, l'esplanade du Château-Neuf, l'atelier des arts vivants, le théâtre Jean Massé, le Reflet et les trois lycées, l'IMAC, le lycée Douanier-Rousseau et le lycée Ambroise Paré. Donc un partenariat local. On a parlé tout à l'heure de Mayenne Culture et du fait que c'était un outil aussi pour pouvoir programmer des artistes locaux en dehors de Région en Seine, puisqu'il y a un Région en Seine en Pays de la Loire. Est-ce que dans la programmation de cette année, donc quels seront les artistes locaux qui sont programmés? Qu'est-ce qu'il y a des spectacles phares? Est-ce qu'il y a un peu de scène internationale qui est représentée? Parlons de la programmation du festival 2023.
Ben, le festival, en fait, la programmation, c'est vraiment un espèce de grand écart entre du repérage ultra local et de l'international. Comme nos partenaires, on évoquait les partenaires, c'est vrai que ça va de la ville de Laval jusqu'au ministère de la Culture. Et on retrouve ça. Donc cette année, effectivement, on a une programmation mayennaise, par exemple, que je distinguerais de deux ordres. Il y a trois projets qui ont une vraie ambition, où on a une vraie ambition nationale. Pour eux, en tout cas, il y a une vraie. Pour nous, en tout cas, ils sont en pleine maturité, ils ont un vrai potentiel de tourner un peu partout en France, et on va les présenter dans ce sens-là. Puis on a trois autres projets qu'on va présenter le dimanche, en partenariat avec Mayenne Culture, qui sont des projets qui sont plus en work in progress et qui sont émergents, qui ont besoin peut-être d'une petite visibilité professionnelle, notamment avec les professionnels du territoire, mais qui sont peut-être encore trop jeunes, trop frais pour être vus à l'échelle nationale.
Il y a encore besoin de travailler le projet, voilà. de travailler le spectacle, et du coup pour eux c'est une première opportunité de représentation, de rencontre avec le public, de rencontre
Exactement.
Avec des pairs aussi, et d'échanges avec des programmateurs pour retravailler et avoir des regards extérieurs.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc ça fait 6 projets quand même sur 71 spectacles, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et ensuite, de l'autre côté, effectivement, on a une sélection internationale, notamment précisément sur 3 pays qui sont véritablement partenaires. Donc c'est directement, là dans l'occurrence, par exemple la Belgique, c'est vraiment le ministère de la Culture du pays qui est partenaire du Chaînon et qui a tapé à la porte pour nous demander s'il était possible de présenter 5 projets belges dans le domaine du cirque du jeune public.
Je fais une petite parenthèse, ça va faire plaisir à ma collègue Margot, parce que Margot,
et oui.
Elle a passé 3 ans en Belgique, donc elle est mayennaise.
Ça se voit.
Ah oui.
Ça se voit.
Autant représentée que la Mayenne.
C'est ça.
5 spectacles seront présentés du coup.
Ouais, 5 spectacles, un peu plus même, parce qu'on a 5 spectacles en partenariat avec eux, mais on a un autre spectacle que je suis allé en Pirelli, qu'on est allé chercher, qui est flamand, parce que nous, notre partenariat est avec Wallonie-Bruxelles, et plus sur la création francophone. Et pareil, en Suisse, on a un gros partenariat avec Pro Helvetia et la Corodis, qui sont les deux grandes institutions, en fait, partenaires des arts vivants en Suisse, et avec le Canada. Alors que le Canada, c'est assez historique, hein. Chaque année, on accueille 3-4 projet canadien, plutôt orienté vers la musique, ce qui sera aussi le cas cette année avec nos partenaires de Musique Action et de la SODEC. Donc il y a vraiment, on sent bien, et c'est vraiment la chose qui est en train de changer, on sent bien que le Chaînon devient pour des pays vraiment la meilleure porte d'entrée pour pénétrer le marché français.
Alors c'est intéressant parce que du coup, on sent que voilà, il y a des petits spectacles émergents, des choses un petit peu plus abouties avec des gens qui ont déjà une solidité dans leur pratique artistique, et puis un autre niveau de diffusion qui devient à l'international, une diversité dans les propositions, ouais. Où chacun peut se retrouver. Et je me demandais du coup, Marie, là, puisqu'on accueille des spectacles belges, est-ce qu'on arrive à diffuser les spectacles qui du chez nous sur les pays donc la Belgique, la Suisse et la Wallonie, est-ce que la diffusion se fait de la même manière dans l'autre sens?
Alors, on arrive d'autant mieux à les diffuser, en fait, par le chaînon que de manière individuelle, en fait, pour chaque programmatrice, programmateur, parce que du coup, on peut réunir, notamment via des réunions dans chaque région, les envies des uns et des autres pour accueillir les spectacles, ce qui permet de mutualiser les déplacements. Donc, un spectacle belge qui viendrait en Pays de la Loire, c'est pas rien en termes de frais de déplacement. Donc, quand il y a quatre structures qui l'accueillent en même temps, qui arrivent à aligner les dates pour faire un seul trajet, mais du coup, c'est ce qui permet aussi à une partie de ces structures de pouvoir accueillir un spectacle belge, canadien, suisse, que cette structure n'aurait pas pu accueillir toute seule à cause des frais de déplacement.
Du coup, là, ça permet en fait de programmer des tournées.
Exactement.
Voilà. Et d'être dans une cohérence et une économie d'énergie.
Oui.
Vous êtes très développement durable chez nous.
Complètement. Alors, pour compléter aussi, on a des principes de réciprocité avec d'autres réseaux ou d'autres structures. Donc, on a une petite délégation internationale de programmateurs et d'événements, un peu comme le Chaînon, qui viennent au Chaînon. Ils vont être une petite vingtaine cette année, plus quasiment 30. Ils vont probablement programmer des Français sur leur territoire. Alors, c'est pas... Nous, après, on a moins de visibilité et on n'accompagne pas ce volet-là. Mais effectivement, 4, 5... peut-être parfois plus, projets vont jouer ensuite en Suisse, en Belgique ou au Canada.
Oui, il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Bon. Et du coup, donc on parlait de un peu les tailles. Hein. Donc là, en termes de profil de spectacle, je veux dire sur le genre, quoi. Enfin, on est sur du spectacle vivant. On parlait tout à l'heure de la scène musicale jeune public par rapport à l'accompagnement que vous pouvez avoir sur un petit peu des spectacles avec une spécialisation, que ce soit la marionnette et du coup cette année la scène musicale jeune public, c'est ça. Là, il reste une grande diversité en fait de genres, du théâtre, de la musique, du cirque, mmh. de la danse.
La danse,
les
arts de rue,
les arts circassiens. Mmh. De l'humour.
Bah, un peu toutes les disciplines qu'on voit dans la plupart des théâtres en France.
Bah oui, c'est ça. Donc une grande diversité avec peut-être un accent sur la scène musicale jeune public.
En fait, cette diversité est assez unique. Parce que, mis à part le Festival d'Avignon, et encore sur des proportions assez différentes, en fait, il n'y a pas d'autres festivals en France qui présentent autant de diversité. Enfin, que ce soit professionnel ou un public, on peut aller voir un spectacle jeune public le matin, puis enchaîner avec un spectacle de théâtre, voir un concert à la chapelle de lycée Ambroise Paré entre midi et deux, puis ensuite enchaîner avec un spectacle de danse, ensuite aller voir un autre jeune public ou un spectacle de cirque, et pour terminer avec un plateau avec trois artistes le soir. Donc on peut le faire à Avignon, c'est pas simple parce qu'en fait les proportions, il y a sur 1500 spectacles, il y a 1200 spectacles de théâtre, il va y avoir 50 spectacles de danse, et donc les proportions sont différentes, mais il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'autres festivals en France
qui propose
peut-être
cette diversité,
même en Europe,
là.
Je ne sais pas, mais en tout cas en France, c'est sûr qu'ils proposent cette diversité.
Et est-ce que du coup, vous avez une volonté d'étendre à d'autres pays que les pays francophones la collaboration?
Ah, on le fait. On a eu, on a généralement cette année, on a deux spectacles espagnols. On a, enfin, on s'ouvre vraiment généralement aux autres pays, mais c'est au gré un peu du repérage. La Catalogne a voulu, on a eu déjà pendant 2-3 ans un partenariat avec la Catalogue. Oui. Il y a une vraie velléité, il y a une vraie envie effectivement de s'ouvrir. Après, c'est pas simple, c'est-à-dire le repérage tout de suite, ça coûte un peu quoi. Et en fait, on se rend compte que en France, on est très très bien doté quand même en événements de repérage et que dans la plupart des autres pays, il n'y a pas des grands festivals comme Avignon. Alors il y a Édimbourg, il y a le Fringe Festival, mais qui est pas simple, c'est en août, c'est cher. Faut avoir les moyens aussi du repérage international, ce qui n'est pas totalement le cas pour l'instant.
Ouais, puis la culture en France, c'est important. C'est quand même on a de la chance.
Non, clairement, on est vraiment privilégié. Alors je dis pas que ça, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais on est clairement privilégié quand même.
Donc là, il y a les programmateurs, le grand public est invité à venir voir les spectacles, gratuits ou payants, avec quand même des tarifs qui sont relativement bas, qui n'excèdent pas 10 euros. Vous avez aussi un public scolaire. Est-ce qu'il y a des actions culturelles en amont? Est-ce que... je ne sais pas qui s'occupe de ça chez vous.
Alors,
si c'est pendant le festival, est-ce que... Il y a des représentations spéciales pour les scolaires ?
Ouais, ouais. En fait, enfin, spéciales pour les scolaires et les professionnels. Mais oui, il y a un gros, gros travail qui est fait sur les scolaires, puisque c'est entre, selon les années, c'est entre 1500 et 2000 enfants qui sont sollicités, en tout cas qui sont mobilisés sur le festival, qui viennent sur le festival. Donc il y a un gros, gros travail qui est fait auprès des crèches, des maternelles, des primaires, du lycée. Et en fait, on a très peu de collégiens. Les collégiens, on a du mal à les faire bouger. Voilà, c'est bizarre, mais c'est...
Amis collégiens, professeurs des collèges.
Venez voir des spectacles. Et c'est Sophie, une autre Sophie, qui intervient sur ce secteur-là. C'est un gros, gros travail parce qu'elle, elle arrive... En fait, la programmation, elle sort, elle est bouclée fin mai. Donc en un mois, il faut réussir à sensibiliser les différentes écoles pour pouvoir se préparer et réserver des places pour septembre. Donc c'est un
taf. Et donner envie.
Ouais, c'est un taf assez compliqué. Enfin, mais au final, c'est quand même autour de 1500 enfants qui viennent voir des spectacles.
Puis c'est bien, je pense, pour les programmateurs d'assister à cette rencontre entre les artistes et un public, quand c'est des publics captifs ou des publics jeunes, enfin, j'imagine un public de crèche, on ne peut pas se mettre dans leur peau.
Non, mais en plus, c'est absolument nécessaire. Nous, notre responsabilité, c'est quand même d'accueillir les spectacles dans les meilleures conditions.
Et pour le public auquel ils se destinent.
Exactement. Et c'est de présenter ce spectacle face au public pour lequel il est destiné. Moi, j'ai assisté quand même à de nombreuses représentations jeune public sans jeune public. Parfois, c'est le vide, c'est abyssal. Non, mais c'est, la perception n'est pas du tout la même.
Non, bien sûr.
Et là, on réussit vraiment, et ça, c'est génial, parce qu'à Laval, on réussit vraiment à le faire, quoi. Très rapidement, il y a une mobilisation quand même du
Je pense
du secteur,
que le public
en fait,
lavallois ouais. est très preneur de ouais. cet événement, et que du coup, même si ça a été... Enfin, peut-être qu'au début, ils étaient plus timides, mais le public lavallois attend le chaînon.
Ouais, clairement. Ouais. Voilà. Bah, maintenant, on était à 94% de remplissage, donc oui, c'est attendu, et il y a une vraie réponse du public.
Et du coup, pour organiser toutes ces représentations, avec votre équipe de 4 permanents, d'augmenter de 15 personnes sur le temps du festival, et puis les quelques personnes qui vont être là en satellite sur peut-être des missions ponctuelles, il faut des moyens humains. Donc je m'adresse à Sophie, parce que je sais que c'est énorme le travail qui est mené pour permettre au public d'être accueilli dans de bonnes conditions. Donc Sophie, qui s'occupe de la coordination des bénévoles, combien de bénévoles participent au festival chaque année ?
Alors, à l'heure actuelle, j'ai 249 bénévoles, sachant que ça s'inscrit toujours jusqu'au dernier moment. Et dans l'idée aussi, c'est qu'on accepte tout le monde. On trouve aussi toujours une place pour chaque bénévole. Dès que quelqu'un veut donner un coup de main, on est preneur. C'est des postes qui commencent aussi en amont du festival, puisque même pour la période de ce qu'on appelle de montage, donc à partir là du 7 septembre, il y a déjà des bénévoles qui sont mobilisés. Et ce, jusqu'au 20 septembre aussi, jusqu'à la fin du démontage. On a différents postes qui sont proposés sur toute la semaine, donc que ce soit aux entrées de salle, justement, pour accueillir les différents publics, ou comme on en parlait, pour de la médiation, pour accueillir les groupes de scolaires, également sur nos différents accueils, pour accueillir les professionnels, les artistes, les bénévoles, et aussi un de nos postes les plus importants, donc ce qu'on appelle un peu dans le jargon des festivals, c'est le catering. Donc c'est le lieu où mangent les artistes, les techniciens, les bénévoles, les membres d'organisation. Et on a besoin aussi de bénévoles pour nous aider à la création de tous ces repas.
Donc si je résume bien, autour de 4 missions, genre les entrées, l'accueil des publics, public scolaire.
Oui, on a aussi la mise en place des loges aussi pour accueillir les différents artistes dans les différents lieux. Donc mettre en place toutes les loges sur les lieux extérieurs et sur le square de Boston. Et oui, c'est déjà pas mal.
Ça fait 5 du coup.
Et aussi, on a aussi ce qu'on appelle nos runners et runneuses aussi pour parler un peu de jargon de festival. Ce sont les chauffeurs et chauffeuses qui sont chargés d'amener les artistes d'un point A à un point B. Ou des chargés de diffusion.
Donc oui, il y a en fait pas mal de missions différentes. Oui. Du coup, quelles compétences il faut posséder pour se proposer bénévole au chaînon ?
Alors, il n'en faut aucune. L'idée, c'est que justement, chaque poste est encadré par un responsable. Donc, pas besoin d'avoir de compétences particulières pour faire un poste. L'idée, c'est qu'il y a toujours quelqu'un aussi pour donner un coup de main. On n'est jamais seul sur un poste. Par exemple, aux entrées de salle, c'est toujours en binôme. Et en plus, généralement, on a des responsables de salle qui sont là aussi pour aider s'il y a un problème. Donc, vraiment, on accepte tout le monde et il n'y a pas de compétences requises.
D'accord. Bah, peut-être juste le permis pour,
voilà.
pour conduire les artistes. Et comment on fait pour devenir bénévole au Chaînon ? À qui il faut s'adresser ?
Alors,
comment ça se passe ?
Pour devenir bénévole, alors, il y a le site internet, il y a un onglet bénévolat avec un formulaire d'inscription en ligne. Si jamais par internet c'est aussi compliqué, il y a mon numéro de téléphone et je peux tout à fait aussi prendre une inscription par téléphone ou même venir en physique au bureau. J'ai aussi un formulaire papier à remplir. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on me donne les disponibilités, les envies de poste, moi, par la suite, je reviens vers la personne en proposant un planning qu'elle me valide ou non par la suite.
Et là, tu as encore des besoins ?
Oh, bah, j'ai toujours des petits besoins, parce qu'il y a toujours des petits réajustements de dernière minute ou des impératifs à droite à gauche, ce qui fait que les gens ne sont pas forcément disponibles tout le temps. Après, ce qui est vraiment chouette là sur le Festival du Chaînon, c'est qu'il y a quand même peu de désistements et les bénévoles qui sont là sont aussi très motivés et n'hésitent pas aussi à donner plus de temps que ce qu'ils avaient prévu au départ. Donc c'est aussi très agréable de travailler avec cette typologie de bénévoles.
Il y a tous les profils, j'imagine, tous les âges.
Il y a tous les profils. Alors je dirais que ça va même, pour être très précise, de 16 ans à 84 ans.
D'accord.
Au niveau des bénévoles. Tous les profils aussi, parce que comme on a parlé précédemment, je m'appuie aussi beaucoup sur des structures locales. Je travaille notamment avec France Terre d'Asile, France Horizon, À la Croisée, GEST, la mission locale. Voilà, c'est aussi l'idée que le bénévolat est une porte d'entrée pour découvrir des spectacles et aussi pour faire du lien social avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément croisées dans notre vie de tous les jours.
D'accord, donc oui, la plus-value pour les gens, c'est l'accès à la culture.
Exactement.
Et peut-être aussi une possibilité de valoriser des compétences et de rajouter une expérience dans son CV quand on n'en a pas beaucoup, c'est bien.
C'est ça, tout à fait. Je sais que par exemple, pour la mission locale, j'ai beaucoup de jeunes par exemple, qui viennent en cuisine et qui après valorisent parce qu'ils veulent se diriger vers l'hôtellerie après ou la restauration et donc ça leur permet aussi de valoriser cette expérience.
Quelles sont les missions les plus prisées ?
Alors les plus prisées, je dirais que chauffeur, chauffeuse, on a une équipe qui est bien ancrée depuis plusieurs années. Donc c'est aussi assez prisé. Après, c'est des horaires aussi assez longs et qui peuvent aussi changer. Après, les scans aux entrées de salle aussi, c'est pas mal prisé directement.
Bon, très bien. Donc là, vous pourrez trouver toutes les informations sur le site du Chaînon.
Tout
c'est ça, www.lechaînon.fr ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, la possibilité de participer et ça jusqu'au dernier moment, d'avoir accès au spectacle, de se fédérer aussi avec d'autres bénévoles.
Ouais, puis de rencontrer une communauté. En fait, il y a vraiment, au-delà de tout ça, il y a vraiment une création de lien, du lien social qui se fait. Moi, j'ai le témoignage de gens qui ne se voient qu'au Chaînon. En fait, ils se croisent pas forcément à Laval le reste de l'année, etc. Mais là, au Chaînon, ils ont plaisir de se voir. Ça. Et puis d'autres qui se sont rencontrés au Chaînon et puis ont développé une amitié, voire peut-être de l'amour. Mais en fait, il y a vraiment.
Les sites de rencontre, lechaînon.fr.
On essaye de créer ce lien-là. On a plusieurs temps. Alors, au-delà du festival, on a 2-3 temps en amont avec eux pour présenter la programmation, pour se rencontrer, pour boire un coup, et puis aussi après le festival. L'idée, c'est vraiment, en tout cas, tel qu'on le travaille et tel que Sophie le développe, c'est aussi faire attention à l'autre, créer ce lien et puis avoir une espèce de communauté qui nous soutient un peu durant l'année. Ils sont plusieurs à passer au bureau durant l'année pour nous saluer. Alors parfois, ça dépasse complètement aussi. Ils nous filent des coups de main sur la diffusion. Ils passent, ils prennent des programmes qu'ils vont déposer à l'autre bout du département.
Ils filent des coups de main sur la diffusion. Il doit y avoir pas mal de travail dans l'après-festival pour la diffusion, la production aussi. Relancer tous les spectacles. Marie, toi, c'est plutôt après
Oui, exactement. Moi, mon travail, il arrive après le festival, quand tous les autres ont beaucoup travaillé. moi, c'est vrai que la partie la plus chargée va être entre novembre et janvier, en fait, là où les programmatrices, programmateurs vont réfléchir vraiment à monter leur saison suivante. Et donc, on a ces réunions de tournée dans chaque région. Donc, on en a 11. On va dans toutes les régions avec Kevin pour réunir les souhaits des uns et des autres suite au chaînon manquant, en fait.
Donc, en fait, c'est comme une espèce de coordination de diffusion, de production. Du coup, le travail, là, tu recueilles des souhaits, tu mets en relation avec les disponibilités des artistes ou des compagnies.
Voilà, je fais vraiment le lien entre les programmatrices, programmateurs et les compagnies. Au niveau des disponibilités, des enchaînements, de la coordination des dates mutualisées. Il y a aussi de plus en plus de compagnies qui souhaitent vraiment avoir des dates mutualisées, donc qui vont refuser des dates isolées. Donc ça, c'est aussi...
Ah oui, du coup, ça peut être aussi recueillir un besoin à un endroit et proposer des salles voisines la diffusion du spectacle pour pouvoir créer une petite tournée.
Voilà, oui, on est beaucoup sur des tournées mutualisées. Hein. Plus de la moitié des dates sont vraiment sur des tournées mutualisées, c'est-à-dire avec au moins deux lieux qui accueillent le spectacle, deux lieux qui ne sont pas très loin. Au plus, on est sur du 2 heures de route, mais on peut avoir des tournées qui vont aligner 4, 5, peut-être même plus de 6 lieux.
Il faut que ce soit aligné dans le bon sens. Avec la bonne temporalité. Et donc, du coup, c'est rigolo, tout ton travail, il est en décalé, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que, par exemple, là, le prologue du Chaînon, c'était les gens qui étaient programmés sur le festival 2022, pour lesquels tu as travaillé de novembre 2022 à janvier 2023.
Ouais, là même, on a terminé en juillet.
Voilà.
Le calage des dates se termine en juillet.
Qui reviennent jouer pour le prologue 2023, mais en fait, leur saison et la diffusion de leur spectacle sur lequel tu as travaillé, c'est cette année et pas l'année dernière.
Exactement.
Donc, c'est des projets de longue haleine. Hein.
C'est 23-24, c'est-à-dire que les spectacles là, qu'on va accueillir en septembre, c'est pour la saison 24-25.
C'est ça. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ouais. Voilà, c'est ça. Quelque chose où il faut quand même se projeter. C'est énorme. Dans le nombre de bénévoles, se projeter dans le temps.
Après, dans le travail que Marie réalise, il y a quelque chose de très très humain et très concret aussi. C'est-à-dire que les réunions dont on parle, c'est tout simple. On se réunit tous autour d'une table. On a un catalogue de tournée avec un tarif unique pour tout le monde, des périodes qui ont été décidées. Généralement, il y a un petit débat, on parle un peu du spectacle, puis on est bon, bah, qui le prend quoi ? Ok, tu l'as pris. Non, bah, à ce moment-là, si tu le prends le lundi, peut-être que machine, tu peux le prendre le mardi. Allez, toi, fais un effort. Je caricature un peu, mais il y a de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on les.
Êtes des pilotes.
On essaye. Alors après, ça, c'est les réunions de tournée. Puis il y a tout un travail après de fourmi que Marie fournit au quotidien pour pouvoir coordonner, proposer, etc. Et que les choses s'agencent le mieux possible.
Bon, bah, ça, j'imagine que ça doit être un casse-tête d'emploi du temps. Faire un rétro-planning.
À chaque jour, il y a les petites questions, les petits imprévus.
Puis de contact. D'un côté, elle a 70 contacts d'artistes, et puis de l'autre côté, elle a 367 contacts de salles. Donc, c'est un sacré mi-cadeau.
Ça se fait bien. Elle a de l'expérience, je pense. Mais vraiment, c'est un énorme travail. Donc, là, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, à part peut-être parler du programme, où on peut le trouver pour nos auditeurs. Le prologue, c'est à partir du 8 et 9, je redis les dates, sur tout le département, et le festival du 12 au 17 septembre sur la Vallée Changée. Vous trouverez le programme donc à la SCOMAM, bien sûr, mais dans tous les lieux culturels. Vous allez retrouver aussi le programme sur le site du Chaînon, lechaînon.fr, et vous allez retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou Facebook. Il y a même une appli pour avoir toujours, je lis, hein, pour toujours avoir la programmation à portée de main. Parce qu'avec 116 représentations, si vous voulez voir le maximum de spectacles, hein, c'est un peu comme le travail de Marie, il faut être bien organisé. C'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Est-ce qu'il y a une appli là, pour se faire son emploi du temps de la journée ?
Bah, je crois, oui. Dans l'appli, on peut effectivement cocher et se faire son planning.
Ouais. Est-ce qu'il dit si c'est pas possible ? Vous n'aurez pas le temps d'aller entre le lycée Ambroise Paré
C'est pas loin. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la billetterie, en fait, on peut t'interdire effectivement
réserver
un billet en fait qui est en face d'un billet que t'as déjà réservé, quoi.
Donc c'est bien fait. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'application disponible sur Apple Store et Google Play. Moi, je pense que c'est un bon outil. Et puis, sinon, pour les amoureux du papier, il y a toujours le programme classique. Il y a des gens qui s'en sortent très bien avec un petit plan. Voilà, donc ça commence le 12. Je pense que ça va être un beau festival encore.
Bah on espère, mais ouais. Ça s'annonce bien. En tout cas, nous, du côté fréquentation professionnelle et même public, on sent que les gens sont au rendez-vous. Il y a une vraie attente. Après, cette programmation, c'est vrai que je la sens plutôt bien. Elle est pimpante, elle est vibrante. Il y a plein de choses avec ça. Ça va de... Puis il y a des projets assez atypiques, comme le projet grand-mère, où on va transformer des grand-mères en circassiennes. Voilà, il y a cette espèce de soirée aussi d'ouverture un peu dingo avec Claire, l'agence Turlututu et les fils de facteurs. Enfin voilà, il y a plein de rendez-vous un peu Burning Scarlet qui se jouera sur le week-end, une espèce de recomposition d'Autant en emporte le vent. Il y a quand même
des rendez-vous à ne pas manquer.
Ouais, ça va un peu bousculer, mais surtout faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on peut à distance se dire que moi j'y connais rien en danse, mais en fait personne n'y connaît rien en rien, donc faut juste se laisser porter, tenter. On est généralement sur des spectacles qui sont assez digestes et qui voilà, c'est pas non plus le truc de 4 heures ou de 5 heures.
Bien choisi.
dans le Palais des Papes, on est sur des courts formats de 3 quarts d'heure, 1 heure, et qui ont été un peu éprouvés. C'est-à-dire, c'est pas moi, un programmateur tout puissant qui décide de programmer ce spectacle. Non, c'est ce spectacle, il est au chaînon parce qu'il a été vu par 10, 15, 20 regards et qui ont dit ça, c'est un bon spectacle.
Alors, le spectacle grand-mère, justement, parlons-en. Il y a tous les ans un spectacle où on propose, je me trompe pas, hein, c'est tous les ans un spectacle où on. Je me semble que c'est déjà arrivé où on propose, alors peut-être c'est le théâtre qui fait ça, mais en tout cas là, il y avait un appel à participation des personnes de plus de 65 ans, non, c'est ça ?
De 65 à 100 limite, quoi.
Pour venir participer à la création du spectacle et être un artiste lors d'une représentation ?
Alors, c'est pas chaque année, mais tu as raison, c'est une tendance. Il y a une tendance depuis 5-6 ans de spectacles un peu participatifs où on demande la participation du public. Bon, là, en l'occurrence, pour moi, c'est pas forcément un critère de sélection. Mais là, en l'occurrence, tout est basé là-dessus, puisque l'objet de ce spectacle, c'est de transformer 4 grand-mères en circassiennes. Et donc là, comme ça, de base, ça prête quand même pas mal de... Mais je trouve qu'ils le font avec beaucoup de délicatesse. C'est-à-dire que quand on l'expose comme ça, on se dit « Ah, ok, d'accord, donc on va mettre une grand-mère dans un canon et hop... » Non.
Sur un trapèze.
Voilà, sur un trapèze, etc. C'est pas tout à fait ça. Il faut pas s'attendre à des trucs incroyables. Mais c'est du petit dépassement de soi-même. Et c'est très, très beau. C'est plus un travail qui a été fait en rapport avec...
Le portage, non ?
Tout ce qui peut être fait dans des structures de rééducation ou dans des EHPAD, c'est-à-dire on pense qu'on peut pas faire ce geste-là et en fait en s'y appliquant, en étant rassuré, en étant accompagné, on peut le faire. Et effectivement, elles en arrivent à faire des choses incroyables. Moi, dans la représentation que j'avais vue de ce spectacle-là, il y avait une dame de 85 ans qui, à un moment donné, se retrouve en fait en haut de chaise enchevêtrée, quoi. Et je dis, ah d'accord. Alors que, bon, elle a pas, c'est pas spectaculaire, mais fondamentalement, ça l'est, en fait.
C'est ça, ça l'est un peu quand même. Ouais. Voilà. On aimerait bien les avoir à notre micro, d'ailleurs.
C'est très humain, en fait, parce qu'elles racontent aussi leurs histoires. C'est d'abord là aussi une rencontre. Enfin, le chaînon, c'est d'abord, en fait, un projet de rencontre.
Un projet humain, on le sent. Et ben, on retrouvera une partie des artistes à notre micro à l'émission, pour l'émission d'inauguration le 13 septembre de 19h à 21h. Et puis, on essaiera d'en savoir plus sur comment ça fonctionne dans les autres fédérations. Enfin, pour les régions en scène, on recevra aussi des acteurs du territoire national pour ouvrir un peu sur l'extérieur. En tout cas, merci beaucoup d'être venu présenter le réseau Chaînon, le festival, une petite partie de la programmation, parce que sur 71 spectacles, on ne peut pas tout dire. Et puis, il faut aussi garder des surprises pour les spectateurs, les laisser choisir. Merci Kevin, merci Sophie, merci Marie. On se retrouve du coup le 13 septembre à 19h pour l'inauguration du Chaînon Manquant.
Merci.
Merci. Merci.
Si j'avais perdu le peu que j'ai, je ne chanterais pas la joie. Si j'avais perdu
ferais pas le chien avec la papaye. J'aurais moins de chagrin pour trois fois rien. Pour trois fois rien, c'est tout ou rien. Si j'avais perdu le peu que j'ai, je ne chanterais. Fois rien, pour trois fois rien, c'est tout ou rien.